Quand je suis emmené tantôt, j'ai dit, pour moi, il faut oublier mon message à la maison. Ça commence bien pour amener la prédication. Là, quand j'ai ouvert ma Bible, il était là, parce que maintenant, j'ai regardé mon message de bonne heure à matin. Je ne sais pas si vous êtes nerveux, mais moi, je suis tout le temps nerveux un peu pour prendre la parole. Je m'en souviens, la première fois que j'avais pris la parole, ça avait parlé d'enlèvement de l'Église. J'étais nerveux, puis j'ai dit à Londres, ça va s'en aller avec les années, puis on reste toujours nerveux parce que prendre la parole, c'est de quoi de sérieux. Fait que, ce matin, on va parler de la transfiguration. Un message que j'avais sur mon cœur. Ça va être dans Matthieu 17, les versets 1 à 8. Je vais lire les versets, puis après ça, je vais prier. Matthieu 17, les versets 1 à 8. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, il dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Je vais arrêter ici. Ça, on pourrait continuer jusqu'au verset 13, mais on change un petit peu de... C'est pas tout à fait la même chose à partir du 9 à 13. Fait qu'on va prier. On va demander au Seigneur qui nous dirige. Seigneur notre Dieu, merci de ce privilège qu'on a ce matin d'ouvrir ta parole. Cette parole de vérité qu'on a entre les mains, Seigneur notre Dieu, qui nous dirige, qui nous conduit. On a besoin de cette parole à tous les jours. Seigneur, mets ta main sur moi, dirige-moi par ton Esprit Saint et mets ta main sur mes frères et sœurs ce matin, afin qu'ils puissent en retirer quelque chose, Seigneur notre Dieu. Et merci pour tout. C'est ton nom précieux du Seigneur Jésus, ton Fils bien-aimé qu'on t'en prie. Amen. Commencez au verset 1. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduit à l'écart sur une autre montagne. Ici, la montagne n'a pas de nom, elle n'est pas nommée. Puis, Dieu l'a voulu ainsi, la parole l'a voulu ainsi. Mais il y a les trois disciples qui reviennent souvent dans la parole de Dieu, bien souvent, dans des occasions spéciales. Pierre, Jacques et Jean. C'est des témoins que le Seigneur voulait avoir avec lui. Ça fait que c'est pour ça qu'il voulait avoir ses disciples-là. On peut le voir dans Matthieu 26, verset 37, là, que dans le jardin de Gethsémani. Matthieu 26, le verset 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. On voit encore que les trois disciples sont là, au jardin de Gethsémani. C'est des moments spéciaux pour le Seigneur. Puis pourquoi il choisit ces trois disciples-là? La parole ne le dit pas. Le Seigneur, c'est lui qui voulait ça ici. Dans ce verset-là, six jours après, quand on parle six jours après, c'est parce qu'il y a de quoi qui s'est passé avant, qui a été annoncé. Le Seigneur avait annoncé que quelques-uns ne mourraient point qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est pas loin, c'est dans Matthieu 16, versets 27 et 28. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Le Seigneur les avait averti qu'il y avait quelques-uns qui allaient voir le Seigneur Jésus-Christ venir dans son règne. Et ici, c'est 6 jours après. Dans ces versets qu'on a lus ce matin, il y a plusieurs personnages. Premièrement, on voit le Seigneur. On voit les disciples du Nouveau Testament. On voit Moïse et Élie, des croyants de l'Ancien Testament. On voit la nuée et la voix du Père. C'est ces personnages-là qui sont là. Puis, on voit aussi les paroles du Père à l'endroit de son Fils, la gloire du Seigneur, l'affection du Père pour son Fils bien-aimé, le message du Père à l'endroit de son Fils pour le monde. Écoutez-le. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Puis on va passer au verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Transfiguré, ça veut dire de changer de forme. En grec, ça veut dire le mot, je vais essayer de le prononcer comme il faut, métamorphéo, ça veut dire changer de forme. Une révélation de la gloire du Seigneur Jésus à venir ici. C'était pas pour le moment, mais c'était à venir. Ses vêtements, l'éclat de sa gloire reflétait sur son visage. On peut le voir. La gloire reflétait sur son visage. Des vêtements blancs comme la lumière. On voit qu'il se passe de quoi de pas normal. Ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ d'une façon différente. La lumière qui parle ici illustre la gloire et la majesté du Seigneur Jésus. Pierre en parle dans son épître 2 Pierre 1, 17. Je vais le lire. « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » L'apôtre Pierre, quelques années plus tard, il répète ce verset-là. On voit l'apôtre Pierre qui va être touché par la transfiguration dans les passages qu'on lit. Le Seigneur vit depuis plus de 30 ans sur la terre avec un corps comme un homme, ordinaire, mais sans péché, parfait. Puis là, bien, il se manifeste différemment. Et se manifeste dans la gloire à venir. Les disciples, ils voient dans le reflet éclatant la gloire de Dieu. Hébreu 1, le verset 1 à 3, il en parle. On va le lire. Il parle de cette gloire-là. Hébreu 1, le verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par laquelle il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, j'attire l'attention sur le verset 3, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus excellent que leur. On voit ici dans Hébreu que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Dans la vie du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, dans ces versets-là, on peut dire que c'est la plus grande confirmation de sa divinité. Le Seigneur Jésus se révèle lui-même tel qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Jean 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je vais lire Philippiens 2, les versets 5 à 11, parce que c'est quand on... On connaît bien ces versets-là, même on peut quasiment les citer par cœur, mais c'est l'abaissement profond du Seigneur quand il est venu sur la terre, la gloire qu'il y avait dans le ciel. Philippiens 2, les versets 5 à 11, « Ayant en vous les sentiments qui étaient avec Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais... s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Dans ces versets, on peut voir le Seigneur Jésus-Christ. Quand il était dans le ciel, il a tout laissé cette gloire-là pour venir sur la terre. Il a pris un corps d'homme, il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même pour venir sur la terre. On va lire, on va aller au verset 3. Et voici, Moïse et Élie le apparurent s'entretenant avec lui. Quand j'ai regardé ce verset-là, s'entretenant avec lui, il me se posait une question, de quoi il parlait? Parlait-il des choses du ciel? De quoi il parlait. Ici, dans Matthieu, il n'en parle pas. Mais dans Luc 9, le verset 31, on va le lire. Luc 9, le verset 31, il en parle, le sujet. Luc 9... Je n'ai pas arrivé dessus. Le verset 31. On va aller au verset 30. Aussi, et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Il apparaissait dans la gloire, puis parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ici, on peut voir que l'importance de la croix, ici, ce qui va se passer à Jérusalem, pour le Seigneur, c'est des souffrances qui s'en viennent. On voit dans l'Ancien Testament, Moïse et Élie qui sont là, puis ils parlent avec le Seigneur Jésus-Christ de la croix. ici, dans ces passages-là, on peut voir que Moïse et Élie sont revêtus de la gloire. Ils sont revêtus dans la gloire. Tu sais, ils sont dans la gloire du Seigneur. Ça fait que ça nous montre, quand tu meurs en tant que croyant, mais tu t'en vas auprès du Seigneur dans sa gloire. Puis c'est manifesté. Ils sont revêtus de la gloire du Seigneur. Jean 17, le verset 24, le Seigneur a prié là-dessus aussi. Que il a fait une prière que j'aime beaucoup, que c'est souligné dans ma Bible. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, dans la gloire. » C'est exactement ce qu'on voit ici. Puis, je me suis posé une autre question. Je dis, pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi Abraham, David, d'autres prophètes, Isaïe, Jérémie? Pourquoi il a choisi Moïse et Élie? La Bible n'en parle pas. Pourquoi il les a choisis? Il y a des Moïse. Regardez des commentaires. Moïse a reçu la loi, les 10 commandements. Élie, le prophète de l'Ancien Testament, c'est un grand défenseur de la loi. On sait que ce qu'Élie a fait. On n'ira pas lire, là, parce que 1 Roi 18, les versets 16 à 40, il défia et vainquit les prophètes de Baal. Puis ensuite, ben, il pria le Seigneur pour qu'il y ait une sécheresse pendant 3 ans et demi. Pourquoi il y a eu une sécheresse? À cause de l'idolâtrie du peuple d'Israël. Le Seigneur voulait les éprouver, les faire réfléchir. Puis Élie, ben, c'est un peu comme... il n'a pas passé par la mort, il fut enlevé. Il fut enlevé avec son corps. Dans un tourbillon. On peut voir ça dans 2 Rois 2, les versets 1 à 11. C'est des raisons qu'il donnait, puis je trouvais que ça avait du sens aussi. Il y a un commentaire à Scofield que je vais lire par rapport à ça. Le Seigneur Jésus se présente non en humiliation, mais en gloire. Moïse apparaît glorifié, représentait les rachetés qui, après avoir passé par la mort, ont accès au royaume, le royaume à venir sur la terre. Ça. Matthieu 13, 43, il en parle. Élie apparaît glorifié, représentant les rachetés qui, par l'enlèvement, auront accès au royaume. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Pierre et Jacques et Jean ne sont pas glorifiés, et représente Israël dans le royaume à venir. La multitude au pied de la montagne représente ceux qui doivent être amenés dans le royaume après la restauration sur Israël. Isaïe 11, versets 10 à 12. On n'ira pas lire, là, parce qu'on manque de temps. Puis, je trouvais que c'était des commentaires qui étaient intéressants. Le verset va revenir dans... au verset 4. On parlait encore de la croix avant. Dans l'ancienne alliance des croyants, les croyants qui sont là, tous ceux qui croyaient, bien, ils croyaient à la croix, à venir. Nous, dans le Nouveau Testament, on croit que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous. Mais dans l'Ancienne Alliance, eux autres, ils croyaient que le Seigneur, un jour, allait venir sur la terre, qu'il allait mourir sur une croix aussi. On peut voir ça dans notre frère ce matin, lit Isaïe 9, le verset 5. Daniel a lu ça ce matin. Puis, Isaïe 53, le verset 1 à 12, ça nous parle de quoi? Ça nous parle des souffrances du Seigneur. Ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Ça annonçait la venue d'un Sauveur. J'aimerais aller lire dans Isaïe 42, le verset 1 à 7. Isaïe 42, le verset 1 à 7. Le titre, c'est « Serviteur de l'Éternel ». « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne fera point attendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en lui. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux, qui les a déployés, qui les a étendus, la terre, ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui les peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ça a été annoncé ici, Isaïe 42. On va aller voir aussi Isaïe 61, les versets 1 et 3. C'est cité dans Luc 4, les versets 16 et 21. On va lire juste ici. Là. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui n'ont cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Le salut est annoncé ici encore, dans Isaïe 61. Puis Isaïe 9, le verset 5, c'est la naissance du Seigneur qui est annoncée. Isaïe 53, 1 à 12, c'est les souffrances du Seigneur. Ça a été annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Nous croyons que le Seigneur Jésus est venu nous sauver. Dans les quatre évangiles, il en parle à plusieurs fois, plusieurs reprises, la mort du Seigneur qui est annoncée. Les disciples, ils ne comprenaient pas toujours ces paroles-là parce que... Il n'avait pas la capacité de la comprendre. Matthieu 17, les versets 22 et 23. 7, les versets 22 et 23. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir le troisième jour et il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Puis on va le lire aussi dans Matthieu, toujours, Matthieu 16, versets 21 et 22. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. c'est annoncé que le Seigneur Jésus-Christ qui doit souffrir. C'est exactement ce que le Seigneur a fait à la croix. Il faut que mes pages se suivent. Ici, au verset 5, c'est Pierre qui prend la parole. Pierre, prenant la parole, il dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » On voit que Pierre, il vit des disciples qui sont là, ils vivent de quoi de merveilleux, de quoi qui de grand, qui voient de la gloire du Seigneur qui est manifestée dans sa gloire pour eux autres. Là, c'est une joie. C'est pour ça que Pierre, il veut faire trois tentes, il voudrait que ça dure encore un bon bout. Mais c'est pas ça. Ça va venir plus tard. Mais pour le moment, le Seigneur, il fallait qu'il aille à la croix. Pierre avait raison de manifester sa joie, mais il avait tort de ne pas lui accorder la prééminence. Il fait trois tentes pour le Seigneur, Élie et Moïse. Il met le Seigneur au même pied d'égalité que Moïse et Élie. Le Seigneur n'est pas le Seigneur, n'est pas un parmi d'autres égaux, mais le Seigneur de tous et au-dessus de tout. C'est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Et l'apôtre Pierre, ici, dans ce moment-là, il voyait pas ces choses-là. Là. Il était heureux de manifester sa foi. Mais au verset 5, bien, il se passe de quoi encore plus. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fait entendre la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est le Père qui parle ici. Pierre est en train de parler. Pierre parle encore quand le Seigneur, quand l'Éternel, Dieu le Père, a parlé. Il a coupé les paroles à Pierre. Le Seigneur avait de quoi de plus important à dire. Dans ce verset-là, ça nous parle de l'affection du Père. L'affection du Père à l'endroit de son Fils. Le Père, pour confirmer la divinité du Seigneur Jésus sur une forme de nuée lumineuse, le Père intervient. Israël, dans le désert aussi, l'Éternel se manifestait par une nuée. On va lire Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux de jour, dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Colonne de nuée, pour les guider dans leur pont. Si le Père prononce une voix audible, les disciples, et entendre la voix du Père. Il y a trois endroits dans la parole de Dieu où que le Père rend témoignage à son Fils. On voit ici dans Matthieu 17, le verset 5. Dans Matthieu 3, de verset 17. C'est les mêmes paroles. C'est la même parole que le verset Matthieu 17, le verset 5, mais à l'exception, écoutez-le. Écoutez-le, il n'est pas écrit là. Ça, c'est du quant au Seigneur, au baptême du Seigneur Jésus. Le Seigneur a rendu témoignage à son Fils. Puis la dernière semaine, un autre endroit, la dernière semaine du Seigneur à Jérusalem, à peine quelques jours avant sa trahison, son arrestation et sa crucifixion. Jean 12, verset 28, que je vais lire, « Père, glorifie ton nom. Une voix vient du ciel, je t'ai glorifié, je te glorifierai encore. » On voit le Père qui rend témoignage à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. En appelant le Seigneur Jésus, son Fils, le Père déclare être de nature identique avec lui. C'est la parole qui a été faite chair. Jean 10, verset 30, c'est clair. Je vais lire. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Nous, des croyants, on est des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas comme le Seigneur. On est des enfants de Dieu par adoption. C'est parce que le Seigneur nous a aimés. C'est une grâce qu'il nous a faite. Rentrer dans la famille céleste de Dieu, avec un enfant de Dieu, aucun homme qui peut faire ça par lui-même, c'est impossible. C'est par adoption. Puis rentrer dans la famille de Dieu, le Seigneur prend. Il appelle tous les hommes à la repentance. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Pour rentrer dans le ciel, ça prend la repentance, la nouvelle naissance. Il faut confesser nos péchés et demander au Seigneur Jésus-Christ de nous sauver. Éphésiens 1, le verset 5, qui nous parle de l'adoption. Éphésiens 1, le verset 5. Nous, ayant été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Le Seigneur voulait que les hommes soient sauvés. Puis il veut ça encore. Le message de la grâce est encore là aujourd'hui. Les apôtres, toute la parole de Dieu n'en parle que le Seigneur, il veut que tous les hommes soient sauvés. La parole de Dieu, elle parle aussi que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. On va lire un autre verset, Romains 1, verset 1 à 4. Romains 1, le verset 1 à 4, qui nous parle dans ce sens-là. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Le verset nous parle. Que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, égal à Dieu. Le Seigneur, en appelant le Seigneur Jésus son Fils bien-aimé, le Père déclare quoi? Qu'il entretient avec le Seigneur une relation de nature divine et aussi une relation d'un amour divin. En disant qu'il a mis, j'ai mis toute mon affection. Quand j'ai lu ce verset-là, il y a plusieurs reprises d'ailleurs, le mot affection, j'ai dit, c'est écrit combien de fois ça dans l'Évangile de Matthieu. Je suis allé voir la concordance. Je vous pose la question combien de fois qui est écrit. C'est dur à savoir, il faut aller le voir. C'est écrit à deux endroits seulement. Dans Matthieu 17, 5, puis dans Matthieu 3, 17. Je trouve ça un petit peu spécial. On voit que Dieu s'est réservé l'affection pour son Fils bien-aimé. C'est écrit seulement à deux endroits dans l'Évangile de Matthieu. On voit l'importance de l'affection de Dieu le Père envers son Fils. Le mot affection, tel le mot dans le dictionnaire, attachement, amitié, tendresse, attachement. Attachement, ben, je trouvais ça bon parce qu'on a fait les sept « Je suis », puis là, dans cette semaine, ben, on parlait d'être attaché, le cep et les serments, de demeurer attaché au cep. Ici, le Père déclare et approuve tout ce que le Fils est, dit et fait. Son Fils bien-aimé concorde parfaitement avec la volonté et le plan de Dieu. Parfaitement. Jean 8, 29, que j'aimerais lire, parle dans ce sens-là. En 8, 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Je fais toujours toute la volonté du Père. Le verset... Il y a deux mots dans ce passage-là, dans le verset 5, qui a attiré mon attention. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Deux mots, écoutez-le. Pourquoi qu'il dit ça, qu'il rajoute ici, et ici à Transfiguration, pourquoi Dieu le Père rajoute ça? C'est parce que c'est important pour l'homme. C'est très important d'écouter ce que c'est que la Bible a dit, qu'est-ce que le Seigneur dit. Écoutez-le. Pour les croyants, pour les hommes, ici, dans ce passage-là, le Père s'adresse directement aux trois disciples. La transfiguration, il leur dit, « Si mon Fils vous dit ici qu'il doit aller à Jérusalem pour souffrir et mourir, croyez-le. » S'il vous dit qu'il ressuscitera le troisième jour, croyez-le. S'il vous demande de vous charger de votre croix et de le suivre, c'est ce que vous devez faire. S'il vous dit qu'il reviendra dans sa gloire, croyez-le et vivez en conséquence. Si le Seigneur, quand il a commencé à prêcher sur la terre, les premières paroles, Matthieu 4, 17, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Pour rentrer dans le ciel, pas d'autre moyen. Il faut se repentir. Il faut aller au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui pardonne les péchés. Il n'y a pas d'autre que lui. Je vais lire un autre verset, 2 Pierre 3, 9. Deux Pierre pour nous, j'aurais pu citer par cœur. Mais... Deux Pierre. Pour le verset 9. Deux Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrive à la repentance. C'est la volonté de Dieu ici. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. L'homme refuse. Je trouve ça de valeur. L'homme refusé. Un si beau message. Lorsqu'il entendit cette voix, on va revenir dans Matthieu 17, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Tomber sur la face, c'est la réaction de celui qui prend conscience que le Dieu saint de l'univers est présent. Tu tombes sur la face. L'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Adam et Ève, avant d'aller là, Pierre, au verset 4, il disait, il est bon qu'on... Il avait dit au Seigneur, prenant la parole au verset 4, il dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Mais ici, je pense qu'il change d'idée un petit peu. Il est traumatisé. Il y a de la frayeur. Je pense qu'il oublie le verset 4. « Il est bon qu'on soit ici. » Mais Jésus, s'approchant, les toucha, n'ayez pas peur. Apocalypse 1, le verset 17, qu'on va les lire tantôt. En présence du Dieu saint, les pécheurs désirent toujours se cacher. On a l'exemple dans la parole de Dieu au début. Quand Adam et Ève ont commis le péché, c'est quoi qu'ils sont faits? Sont allés se cacher, loin de la face de l'Éternel. Ils avaient une relation avec l'Éternel à tous les jours, mais à cause du péché, ils ont eu peur. Ils sont allés se cacher. Je vais terminer par... je vais revenir sur l'expérience de Pierre. Quand il a vécu la transfiguration, à la fin de sa vie, peut-être 30 ans plus tard, il en parle encore. Ça l'a marqué. 30 ans plus tard, puis il veut que le monde s'en souvienne. 2 Pierre 1, le verset 15 à 18. De Pierre 1, le verset 15 à 18 que je vais lire. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Après mon départ, se souvenir de ces choses. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues. Ce n'est pas des histoires qui ont été inventées, là. C'est ça que l'apôtre Pierre dit ici. Que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté dans nos propres yeux. Tantôt, dans Matthieu 17, Pierre, il mettait égal à Moïse, Élie et le Seigneur. Mais ici, ses paroles ont complètement changé. Mais comme ayant vu sa majesté dans nos propres yeux, là, il met le Seigneur au-dessus de tout. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à la fin de sa vie. Le verset 17, « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quant à la gloire magnifique, lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Les mêmes paroles que le Seigneur avait prononcées à la fin de sa vie. C'est ça qu'il veut que les croyants se souviennent. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire. Quand j'ai fait ce message-là, j'ai dit, quelle conclusion que je peux mettre là-dessus? Je me suis posé une question. Quelle est mon affection pour le Seigneur Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Père? Quelle est mon affection? La question que je me suis posée pour moi, je vous la laisse à vous autres. Puis je vais me dire au Seigneur Jésus, viens. Viens te montrer dans ta gloire. Les derniers versets de la parole de Dieu, Apocalypse. Apocalypse 22. Versets 17 et 20 et 21. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Quelle belle parole ici ». La Bible termine par ces paroles-là. « Oui, je viens bientôt. Amen ». Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Viens, Seigneur Jésus. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci de ce temps béni, de ce privilège que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, d'ouvrir ta parole. Quand on rouvre ta parole, Seigneur, on s'approche de toi. On voit ta grandeur, ton amour. On voit que tu nous as aimés, Seigneur, et que tu veux notre bien. On voit aussi que notre espérance est là. Notre espérance est éternelle avec toi, Seigneur notre Dieu. Merci pour tout. Et merci encore pour ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, en qui tu as mis toute ton affection. Amen.